écoutez Tau ou Tarn. Reportage, rencontres, portraits d'habitants et initiatives locales dans le Tarn.
Un magazine partagé à la confluence des ondes amies, celles de Radio Albitzès, Radio Erdotan, Erdotan Gaillac et Radio Octopus.
Bonjour Tau ou Tarn, et très heureux d'accueillir aujourd'hui Romain Jam pour parler des activités du banc sonore. Alors c'est vrai que tout programmateur radio connaît les activités du banc sonore, établissement qui existe depuis plusieurs années sur Rabastens. C'est un bar, mais c'est aussi autre chose. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors Romain, explique-nous un peu l'historique du banc sonore. Toi, tu n'étais pas de Rabastens, tu viens plutôt de Toulouse.
Oui, à ce moment-là, mais d'ailleurs les créateurs du banc sonore, Magid et Suzy, venaient également de Toulouse. Et c'est un café-restaurant qui a été créé en 2014, qui succède au café associatif qui s'appelait le Qu'est-ce qu'on fait, et qui a été créé directement autour de principes qui sont les approvisionnements locaux, ce sont à garder, l'organisation en société coopérative et le fait de tout faire maison à des prix les plus modiques possibles. Moi, je suis arrivé dans ce café en 2021, donc à la réouverture après la deuxième pause liée au Covid. Et du coup, on a gardé un petit peu cette philosophie, effectivement, avec nous.
C'est pas ta première expérience de cafetier, si j'ose dire.
Non, c'est vrai. On connaissait très bien le banc sonore parce que ça avait été une de nos inspirations, mais avec des copains, on avait créé à Toulouse le café qui s'appelle l'Itinérarbis, qui fonctionne toujours, donc qui est sous format associatif. Et on avait un petit peu visité, parce qu'à la base, on voulait le faire à Gaillac, dans le Tarn. Malheureusement, les locaux qu'on avait visés, on n'avait pas eu l'occasion de les avoir. Et puis, on a eu une bonne opportunité à Toulouse, et on a créé ce lieu qui nous a apporté des expériences assez incroyables, qui faisait plus de 300 événements par an. Donc, tous les jours, en fait, d'ouverture, il y avait des événements, voire même parfois deux. Et ça a été une expérience collective très très enrichissante, et en partant de Toulouse, j'avais envie de continuer à faire ça, parce que c'est y a pas de routine quand on gère ce genre de lieu. C'est très fatigant, c'est très stimulant intellectuellement, mais on s'y retrouve largement, quoi.
D'emblée, l'idée de créer, donc, de continuer sous la forme coopérative était claire.
Oui, et puis je pense que ça fait un pied de nez à l'économie conventionnelle sur plusieurs aspects. Le banc sonore, nous, on n'a pas racheté de fonds de commerce quand on est venu ici. On a juste repris des parts dans la coopérative. Et du coup, ça permet à ce qu'il y ait une transmission qui se fasse, pas au travers de l'argent, mais au travers de ce que les gens... des gens qu'on choisit pour reprendre le lieu, quoi. Si je dois vous donner une petite idée, moi j'ai dû mettre 3000 euros de part sociale pour reprendre le café. Si quelqu'un vendait un établissement comme ça dans le commerce, ça se vendrait entre 100 et 200 000 euros. Donc on n'est pas sur les mêmes ordres d'idées, et ça donne un peu une idée de c'est pas le fric qui gouverne le lieu, c'est plutôt la philosophie.
Tu n'étais pas seul ?
Non, évidemment, ça a beaucoup bougé, on va dire. Je vais donner peut-être un état de l'équipe aujourd'hui. Ça a pas mal bougé parce que, il y a eu des périodes, des gens aussi qui s'intéressent, des soucis dans des collectifs humains comme on peut en avoir. Là, aujourd'hui, on a 4 personnes donc, qui sont coopérateurs, bientôt plus, parce qu'il y a des gens dans l'équipe qui vont rester plus longtemps, qui s'ancrent dans la durée. Donc, il y a Marie-Lys, Fabiola, Flo et moi. Donc voilà, on est 4 à être salariés et à avoir des parts sociales. Suzy, on en a encore quelques-unes parce que progressivement, il faut qu'on lui rachète. Mais voilà, non. Et puis elle voulait aussi au départ, et je pense que ça nous a beaucoup servi, être dans une approche de transmission progressive, toujours avoir un œil sur ce que c'était pour que ça ne devienne pas n'importe quoi. Même si on se faisait confiance, je pense que son apport à ce niveau-là a été très important.
Vous avez quand même rapidement posé les bases de l'activité du banc sonore, à savoir à la fois effectivement un lieu où on peut boire, où on peut manger, et puis un lieu où on peut échanger, se cultiver avec des événements, des rencontres.
Ouais, c'est important de dire que dans la manière dont on conçoit les choses, on se dit que nous, on essaye d'être vertueux et d'appliquer nos idées politiques au travers des approvisionnements, je disais, des tarifications, de fait qu'on fasse tout maison. Mais ça suffit pas, c'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il faut juste être exemplaire et vertueux pour essayer de transformer la société. Il faut aussi s'attaquer aux structures, et nous, on essaye de faire de ce lieu-là un lieu d'éducation populaire, de prise de conscience, de diffusion culturelle aussi à prix libre, parce que c'est systématiquement à prix libre qu'on fait des propositions et qui permettent justement d'avoir ce rôle de café qui est celui quand même historique en France, qui est le lieu de l'opinion publique, le lieu où ça échange, ça débat, et ça a été quelque chose historiquement hyper important, parce que ça a fait partie des ferments culturels de la Révolution française, et on aime bien faire vivre cette histoire et cette philosophie dans ce lieu.
Donc tu es révolutionnaire dans l'âme.
Ah oui, complètement. Dans l'âme et physiquement, du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux.
D'accord. Alors, on voit que par rapport à cette dynamique de la création de cafés culturels, on est dans un territoire qui est relativement bien doté, même si on sait aussi les difficultés que certains affrontent, faut pas les nier. Il y a par exemple au bord du monde à Salvagnac, un peu sur le même modèle, les cartes sur table à Gaillac.
Qui vont fermer la fin du mois d'avril, effectivement.
Effectivement. Pour toi, c'est vraiment un lieu qui peut débloquer des choses, apporter des dynamiques dans des secteurs comme ceux de Rabastens, c'est-à-dire à la fois ruraux, mais aussi un peu urbains.
De toute façon, je pense que ça apporte des choses différentes en fonction des endroits, mais parce qu'à Toulouse, on a eu, par exemple, avec l'itinéraire Abyss, on a eu un rôle politique majeur, alors qu'on était dans une grande zone urbaine. Mais on ne figure pas toujours à quel point ça peut être transformateur. À Salvagnac, je prends cet exemple-là parce que c'est un village de 1200 habitants, ça change complètement la face du village. Il y a beaucoup de jeunes de ma génération notamment, les trentenaires, jeunes parents, qui parce qu'il y a le bord du monde, se disent « Tiens, je vais essayer d'habiter dans ce village-là » et qui vraiment jamais feraient cette démarche s'il n'y avait pas ça. Et je pense que la mairie a eu cette intuition-là parce qu'ils ont beaucoup aidé à l'installation. Ils ont racheté des locaux d'un ancien restaurant, ils ont fait des travaux. Et c'est fondamental de comprendre ça, et c'est à ça que peut servir ce genre de lieu. C'est que ça crée du dynamisme culturel, c'est créer un lieu où les gens ils échangent, et ça revoit l'idée de ruralité où il y a beaucoup de gens qui ont peut-être des idées reçues dessus, avec des habitats très éclatés, des gens qui se parlent pas trop. Et là, ça recrée un centre névralgique hyper important, quoi. Donc effectivement, le banc sonore, je pense qu'il a eu ce rôle-là. Maintenant, on sait que ça fait 10 ans hein, maintenant, et que Rabastens a énormément changé depuis, et que ça garde ce rôle, on va dire, de point d'appui, de lutte, de tout le dynamisme culturel qu'il peut y avoir à Rabastens. Et je pense que où qu'il soit, ces cafés sont très utiles. Et d'ailleurs, la fermeture de Cartes sur Table laisse un énorme vide à Gaillac, parce que c'était réellement un commun que plein d'associations utilisaient pour se réunir, pour faire des réunions publiques même, pour présenter leurs idées. Enfin, il y avait un fourmillement de choses qui fait que ça va vraiment laisser un vide important. Donc il va falloir recréer un lieu là-bas, quoi.
Alors justement, vous localement, vous avez des liens forcément avec un peu les acteurs culturels, mais aussi commerciaux. Puisque tu as parlé aussi du fait que pour ce qui est la partie restauration, mais aussi la partie boisson, vous essayez le plus possible d'être dans le circuit vertueux du local. Comment ça se passe, hein, et puis aussi par rapport aux acteurs institutionnels, la mairie par exemple, c'est compliqué ou...
C'est... Il y a une entente cordiale qui fait que si on a besoin d'une autorisation pour faire tel et tel événement, globalement on arrive à se faire respecter. Après, on sent qu'il y a beaucoup de défiance et qu'il y a une vision très différente de la ville. C'est-à-dire que à Rabastens, on a clairement la sensation que la mairie veut un petit village tranquille, là où on serait tenté de dire que on a tellement de gens qui peuvent créer des choses à Rabastens qu'on considère que c'est une chance et pas un boulet, quoi. Donc effectivement, on est parfois opposés, on a eu des petits soucis, mais voilà, on reste dans une entente assez, assez cordiale là-dessus, il n'y a pas de guerre ouverte, et puis tant mieux pour eux, tant mieux pour nous, d'une certaine manière. Mais voilà, on sait qu'on n'a pas les mêmes idées politiques, et parfois il y a de la friction dans la ligne, mais c'est tout à fait normal, je pense.
C'est un peu normal quand on au café de parfois de se disputer.
Ouais, c'est ça exactement. On partage une même ville et je pense que c'est sain aussi d'avoir ce genre de débat. Mais ce qui est plus manifeste, on va dire dans le coin, c'est que je trouve que les collectivités, elles sont les élus qu'on a sont des bloquants aujourd'hui pour la création d'alternatives un peu partout. Et c'est vraiment très manifeste. Dès que vous avez une association qui tourne autour de l'écologie ou de la solidarité, il y a un blocage systématique. À Gaillac, moi j'habite, on est tous appelés les Sivins, par exemple. C'est quelque chose de manifeste.
Et ou les pélutes.
Voilà, ou les pélutes.
Et c'est vrai que tu as beaucoup de chevaux aussi.
Il y a un problème, on partage le même territoire, on partage le même destin, qu'on le veuille ou non, et à un moment donné, il faut se parler. Et ça, c'est difficile à reconstruire. On n'est pas concerné que nous, ici dans le Tarn, je pense que c'est quelque chose de plus général, mais c'est difficile de créer ces moments d'échange entre des populations et des visions de notre territoire qui peuvent être parfois très opposées.
Alors, bon, la programmation du banc sonore au niveau, on va dire, culturel, mais pas que culturel, puisque, bon, je veux dire presque que vous êtes une société savante, mais au sens d'éducation populaire, ouais. On est d'accord. Donc, vous la construisez comment? Vous avez des propositions ou c'est vous qui, à un moment donné, allez voir, enfin, repérer quelque chose?
Il y a un peu de tout. On a régulièrement des propositions, notamment autour du spectacle vivant, parce que forcément, on est énormément sollicité par les artistes quand ils sortent des spectacles. Alors, on est assez limité, c'est un lieu petit, donc on a souvent des seuls en scène, on a le droit de faire quelques concerts. Voilà. Après, pour tout ce qui est de la programmation politique, il y a à la fois des collectifs qui nous sollicitent pour des projections débats, pour différentes choses. Et nous, on va directement voir d'autres collectifs quand il y a des luttes, notamment. On a été voir Nos Bitumes en disant on est là, on aimerait bien faire un truc avec vous. Donc ça s'est passé au mois de février.
La Voix est libre aussi.
La Voix est libre est venue deux fois. Quand il y avait le projet Terra 2, on a eu aussi. Voilà, donc les luttes, on va les solliciter. On essaie d'organiser des petites conférences ou des petites rencontres autour de thèmes. On avait eu.
Moi, j'ai souvenir d'une rencontre avec Christophe Cassou.
Voilà, oui.
On entend beaucoup parler.
Ouais, mais c'était juste avant son.
Avant qu'il explose au niveau médiatique, effectivement. Christophe Cassou, qui est donc scientifique, qui a participé donc, et qui participe au GIEC, et qui est venu au banc sonore expliquer à. Je sais pas, bon, il y avait. C'était plein. Hein.
Ouais. Mais j'avais eu du contact avec lui avant le Covid, en plus. Et du coup, en déménageant le lieu, je lui ai dit j'ai un autre lieu. En plus. C'est en zone plus rurale, donc peut-être que c'est des gens qui ont moins l'habitude de voir des scientifiques qui leur expliquent comment s'est passé le GIEC. Et c'était un témoignage hyper intéressant. Ouais. C'était vraiment très, très chouette parce qu'ils nous parlaient un petit peu des dessous des négociations du GIEC avec qui avait pris telle position, etc. Et c'est très chouette. Et c'est ce genre de choses. On a fait venir d'autres climatologues également.
Donc la culture est aussi scientifique.
Oui, évidemment. Moi, je pense que l'éducation populaire, ça passe aussi par la vulgarisation scientifique. Donc c'est aussi une des choses qu'on met en avant. Quoi. Après voilà, il y a eu des débats sur la réforme des retraites également. On a fait venir Daniel Obono qui à l'époque était député insoumise, enfin qui est toujours derrière député insoumise de Paris pour qu'elle nous parle de son expérience d'une femme noire à l'Assemblée. Et il y a eu plein, voilà, ça fourmille de plein d'idées. On essaie de voir partout là où on peut être utile et nous apporter des choses. Quoi. Et, bon, on fait des tests, hein, des fois ça marche plus que d'autres, mais l'essentiel c'est qu'on essaye d'en faire un endroit où il y a ces éléments-là, où les gens peuvent venir et se dire je vais pas seulement boire une bière, mais je vais ressortir avec des idées à nourrir, mais pas seulement pour le ventre, on va dire.
Oui. Mais vous organisez aussi des tournois de tarot.
Oui, voilà, il y a vraiment de tout, tournois de tarot,
de coinche. En fait, de coinche, comme vous dites.
Ouais, voilà. C'est pas pareil. Moi, je suis plus belote que coinche. La coinche, c'est sérieux. J'ai l'impression que c'est toujours. Alors que la belote, j'ai l'impression que ça se joue en flânant. Donc oui, il y a vraiment de tout. Il y a des soirées de jeux sociaux. On ne fait pas que de la politique, on va dire. On a aussi juste le rôle où les gens ils se rencontrent et ils passent un bon moment autour de la table, et ça nous va très bien également, parce que c'est comme ça que ça marche aussi, ce genre de lieu.
Votre situation au cœur de la cité, elle est très intéressante.
C'est vrai que on est sur la place principale, il y a le marché le samedi, on a pignon sur rue, même si notre terrasse est petite,
voilà, elle est baignée de soleil quand même.
Voilà, ouais, elle est baignée de soleil et elle est à l'ombre l'après-midi, ce qui est pas mal en été. Mais donc du coup, non, c'est un super endroit. Qui a les difficultés d'un lieu du centre-ville, hein, parce que on a évidemment quelques petits problèmes avec le voisinage quand il y a trop de bruit, et on peut pas leur en vouloir, c'est comme ça. On essaie de trouver des solutions pour continuer notre activité tout en étant les moins nuisibles possibles, mais bon, je trouve que on est au bon endroit, et maintenant ça devient, on devient un repère aussi pour cette ville, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Et vous avez même une émission de radio sur Radio Octopus.
Eh oui, c'est méta, là. On va faire... on parle de Radio Octopus sur Radio Octopus. Ouais, on a une émission de radio. Bah, moi, j'ai tendance à me dire, à partir du moment où j'ai un outil, quand il y a quelque chose que j'ai envie de faire, bah, j'essaie de l'intégrer dedans, c'est plus facile. Et j'ai toujours voulu faire de la radio. J'en avais jamais vraiment fait... j'avais fait quelques tribunes par-ci, par-là. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. J'aimerais bien en faire mon métier un jour, si on pouvait en vivre facilement. Mais c'est comme tout ce qui m'intéresse, ça demande beaucoup de travail et ça ne rémunère pas.
Donc l'émission s'appelle Il n'y a pas que l'apéro, c'est, et c'est ça. Mensuel, c'est ça?
C'est mensuel, ouais, on le fait une fois par mois. On invite quelqu'un, systématiquement une ou plusieurs personnes, pour nous parler à la fois un peu de l'actualité politique, mais aussi de leurs actions. Donc on a pu inviter aussi bien la confiserie que le bord du monde, que Sud au moment des retraites, la Confédération paysanne pour la 69, la Voie est libre. Le collectif de lutte contre l'antenne 5G, on a fait plein de thématiques, et c'est très chouette. Voilà, je vous invite vraiment à regarder sur le site de
la radio,
de la radio Octopus.
Ouais. Ouais. Regardez, écoutez. Ouais.
Et écoutez, pardon. Ouais.
D'ailleurs, avant de démarrer ce tout-temps, tu étais en train de préparer l'émission de ce soir.
Et ouais, là, c'est ça. J'étais en train de rédiger mon petit édito que je fais à chaque fois à la dernière minute, parce que sinon, c'est pas assez savoureux.
Ouais, tu te branches sur l'actu, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis bon, faut que ça sorte comme ça. D'accord. Comme ça vient, et c'est comme ça que c'est le mieux. Okay. C'est comme la cuisine, on fait de la cuisine instinctive, et ben on fait de la radio instinctive aussi.
Alors parlons de la programmation, par exemple du mois d'avril, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi. Ouais. Quels sont les rendez-vous prévus?
Alors au mois d'avril, quand il commence à faire beau, on ralentit légèrement quand même la programmation à l'intérieur, parce que les gens ont moins tendance à se mettre dedans. Mais à fin avril, on a plusieurs rendez-vous. Donc on a la Coin chez le Tarot, qui sont indétrônables. On a également un partenariat qui est en train de se nouer avec l'association Game of Tarn, qui est une association de jeux de société, qui fait un premier test là pour voir. En fait, en gros, ils vont animer une soirée jeux de société. C'est le 26 avril, je crois que c'est un vendredi soir. On a un concert également. Inch'Allah, on a l'autorisation de la mairie parce qu'elle est en cours. Peut-être d'ici ce que soit diffusé, on l'aura. Ce sera l'Archer de la Camarade, qui est de la chanson avec un vieux, avec une contrebasse. On a un peu tout ça là. Ça reste relativement sage au mois d'avril, justement. Ouais. Tranquille, quoi.
Et puis au mois de mai, il y a déjà des choses de prévues, de fixer?
Pas encore. Là, on est en train de voir on est en train de voir justement pour des concerts dans cette période. On organise aussi assez régulièrement des événements avec le Prévert sur la terrasse, dans le jardin, pardon, du Prévert, où on s'occupe de la programmation et de la nourriture, et puis ça permet d'avoir une collaboration avec des gens qu'on aime bien et de s'entraider aussi, et donc ça c'est très chouette.
Et vous utilisez aussi la halle parfois?
La halle, voilà, on l'utilise surtout en hiver pour pouvoir faire, pour pouvoir proposer des événements. Il y en a moins à ce moment-là, et c'est vrai que c'est une salle qui est juste à côté du café, donc elle est très pratique pour nous pour ça, quoi. Donc
pour avoir toutes les infos, je crois que vous avez un site internet.
On a un site qui n'est pas toujours à jour, mais vous pouvez quand même jeter un oeil, c'est lebansonore.com. Sinon, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, ou encore mieux, vous laissez votre mail et puis vous recevez la newsletter à peu près toutes les deux semaines. On harcèle personne, mais ça permet d'être indépendamment de n'importe quelle plateforme, être au courant de ce qu'on fait. On dit la programmation et en général, on dit un petit mot de la période politique qu'on traverse.
Et puis puisque le format papier n'est pas si périmé que ça. Oui. Vous avez aussi votre programmation mensuelle que vous diffusez. Ouais. C'est un dépliant que vous faites avec donc, Au bord du monde.
Ouais.
La Mi-Chemin, qui est donc aussi un café culturel, mais celui-là, chez nos voisins du Tarn-et-Garonne, à Montclar de Quercy.
Ouais.
Alors, carte sur table pour encore quelques semaines.
Mm-hmm.
J'espère que vous trouverez quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir ces quatre...
Ouais, il y a des discussions avec le Cénophage.
D'accord.
Et bon, on verra après comment ça peut encore évoluer, quoi. Mais effectivement, on avait décidé de se mettre ensemble parce que c'est aussi bien. On venait chacun s'apporter nos tracts. Ça, au bout d'un moment, ça devenait un peu absurde. Donc, on avait commencé avec Le Bord du Monde l'année dernière, enfin, il y a un peu plus d'un an même. Et donc, les autres nous ont rejoints aussi. Et je trouve ça assez génial parce que du coup, les gens découvrent aussi par le prisme d'un des cafés toute la palette qui peut exister dans le coin et ça plaît à beaucoup de monde.
Dernière question de l'émission.
Ouais.
Toujours autour de la musique.
Ouais.
Une petite suggestion de morceaux que tu as envie de partager avec les auditeurs de Tôt ou Tard.
Alors on va pouvoir écouter L'Inconsolable, c'est un rappeur avec J'ai mes raisons qui il explique pourquoi il rappe et c'est les raisons. Pourquoi je me bats politiquement et j'aime beaucoup ce morceau. Voilà.
Ben on va écouter L'Inconsolable qui va peut-être nous consoler. Espérons-le. Merci Romain.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt pour un prochain Tôt ou Tard. Au revoir.
Je suis un noir. Je suis devenu écrivain. C'est pas un métier qu'on prend très au sérieux chez nous, n'est-ce pas? Et si on veut être un écrivain en étant noir, on risque de devenir une espèce de clown. Parce qu'on n'a jamais pensé que vraiment qu'un noir peut devenir écrivain. Donc, il est fallu pour moi que je décide et tout de suite que je ne suis pas folkloriste. Je ne suis pas né pour vous amuser.
J'écris comme une machine à écrire. S'obstine à dire les débris de tout ce qu'ils visent à détruire. Ton apathie m'attire et m'incite ainsi à la décrire. J'ai une pensée pour nos martyrs, assis vins sous Clichy, sous bois ou tout autre endroit où les tartir. J'écris pour me souvenir, pour rapper, pour me rappeler que pour sourire faudra se taper pour le meilleur ou pour le pire. Comme Rodney King, Malik ou Sekin, Malcolm X, Angela Davis, Tante Leta et Sega, Sévis, toute mathématique ou Séchine. J'écris pour exister, persister à résister, m'exprimer car c'est triste et contre consentir à s'éclipser. J'écris ces mots désuets, clavier que j'aime vaut d'expurger. Écrire ces mots me fait suer, mais j'ai plus de peine en gros. C'est purgé, c'est durgé, crie car ça urgé, puis c'est surgé. Pris trop à cœur ces sujets pour veiller à ne pas m'insurger. J'écris comme Aimé Césaire, comme James Baldwin et Prévert. J'écris car c'est ce que je préfère, écrire des vers mais nécessaires. J'écris les cris qui en moi résonnent et dont l'effet sert. Attire tout mon mépris aux grands esprits qui vont laisser faire. Oui, j'écris contre la traîtrise, la bêtise, la méprise pour que ça épuise. Les clans du qui l'ont vendu et dont la méprise. J'écris pas pour que ça séduise, j'écris parce que ça m'enivre. Pour moi, vivre sans écrire, c'est comme d'écrire sans vivre. Sans livre, la vie ne vaut pas d'être vécue. Sans peura, sans sofa, sans peu fa, moi la vie me semble fade, l'ennui est têtu. J'étudie les mots sans prof, érudit de proche en proche. M'arrêterai quand j'aurai tout dit, non pas les euros en poche. J'écris pour les damnés de la terre, j'écris pour les années à venir. J'écris pour préparer la guerre qui seule va dévoiler l'avenir. C'est triste à dire, mais j'écris cette rime pour la livrer. Pour me délivrer, je me demande qu'est-ce que Mohamed a livré. Si je l'ai écrit, c'est que je givrais. Sans le rap, je serais givré. Je m'en taperai au nom des 100 pas de colons qui sait se juivrer. Mais j'écris pas pour écrire, j'écris des textes de combat. Et je dis aux pacifistes que ceux d'en face, hélas, le sont pas. Pour preuve, l'ambassade. Soukouna, on a Mohamed Benouna, Karim Boudouda avec en prime Zied et Bouna, Abdoulaye Kamara, Lamine Dieng, la Sana Diara, Gaïa Abdoulaye Fofana et puis viennent Théo Adama, Amin Bentounsi et aussi Mamadou Mariga et Yassalem et Souli. La liste est longue donc je m'arrête là. Avec la rage que tous partagent dans les parages, j'exhume le sang de tous nos absents, c'est lui qui noircit ma page. J'écris parce que je suis pas sage, parce qu'on m'a dit tais-toi, assieds-toi. Je me lève, ma voix s'élève et cherche un passage. J'écris parce que c'est tendu, que parler nous est défendu. Qu'aujourd'hui encore à Tripoli, des esclaves sont vendus parce qu'ils en ont descendu. J'écris comme James Cameron à propos de Tom Sheep et Abe Smith qu'ils ont pendu. J'écris car j'aime à croire que c'est de ça aussi qu'aura dépendu. L'incendie qui, comme en 2005, ramera tous ses pendus. Le savoir est une arme, faire sans ça non. J'écris parce qu'on a autant besoin d'une balle dans
dans le canon des bouquins de Franz Fanon. Certains voudraient qu'on soit dans la non-violence, qu'on demande pardon. Oublie que le peuple nous garde, on dépend de comment nous nous battrons. Ce qu'on arrachera au patron, au baron, au bâton, au sale con, en bleu qui nous tire des grenades dans le plastron. C'est ça qu'on nommait dire quand on désire que nous nous calmions, qu'on respecte les lois de l'État plutôt que celles du talion. L'État d'Emmanuel Macron, Serge Dassault et ses avions, Cahuzac et ses millions, l'État de l'affaire Big Malion, de l'affaire Clearstream, de l'affaire Elf, de l'affaire Karachi, de l'affaire du Carlton Lille, de l'affaire Sarkozy, Gaddafi, de l'affaire des emplois fictifs, des HLM de Paris, les affaires Bétancourt, celles en Courte Fillon, la gare des tapis, de l'affaire des ventes d'armes à Angola, la cassette mairie, de l'affaire des diamants de Bocassa et puis de l'affaire Tiberi. J'écris pour dire leurs méfaits, j'écris pour rappeler les faits, rappeler que ce sont de qui nous rappellent à la loi en effet, rappeler qui paie les pots de vinca, c'est qui c'est qui en fait les frais, rappeler que lorsqu'il s'agit d'enfreindre la loi, rien ne les effraie. J'écris pour dire tout ce qui me semblait très pressant, j'écris la BO de ma vie et je t'en rappe un extrait, j'écris et je le fais exprès, non pas parce que je serais distrait, j'écris car ça m'est très précieux et que je m'étais dit que je mettrais. J'écris pas pour les plateaux, télé pas pour les radios, j'avance à découvert mais crois-moi je paierai pas les agios. J'écris pour suivre le réel qui me fit comme Antonin Artaud, j'écris pour que mon vif me survive comme Alain Damasio. J'écris partout pour rêver, je m'endors dans le patio, j'écris debout, point levé, pour inverser le ratio. J'écris à bout pour me relever, pour pas faire le nasiothèque, j'écris par goût pour le relever, comme le Gomasio.
Reportage, rencontres, portraits d'habitants et initiatives locales dans le Tarn.
C'était un magazine partagé à la confluence des ondes ZAMI, celles de Radio Albitzès, Radio Erdotan, Erdotan Gaillac et Radio Octopus.